Boomerang avec le prix Nobel de littérature 2015, donc l'auteur biélorusse Svetlana Alexievitch. C'est parti. Poutine, ce héros, c'est ainsi qu'il se rêve, paraît-il, cet ancien agent de renseignement devenu président, c'est ainsi que beaucoup le rêvent aussi, en guerrier triomphant, seul capable de faire renaître de ses cendres sa mère patrie, de ressusciter, somme toute, mère Russie. Dans un roman passionnant qui s'appelle Vladimir Vladimirovitch, Bernard Chambaz explore les fantasmes que suscite le chef du Kremlin, perçu par certains en Russie comme un demi-dieu ou un héros antique. Tenez-vous bien, on célèbre ses conquêtes comme celle de Hercule, ni plus ni moins. Il nettoierait la corruption comme les écuries d'Ogias. Il aurait capturé la Crimée comme le taureau du roi de Crète. Il défierait l'Extrême-Orient comme Hercule défie le dragon à 100 têtes qui garde jalousement les pommes d'or du jardin des Hespérides. Poutine et sa mythologie. Poutine qui se fantasme autant qu'il est fantasmé. Poutine, ce héros de papier. Ce que nous dit Bernard Chambaz dans Vladimir Vladimirovitch, c'est que Poutine, c'est d'abord une fiction. Une icône qu'on casse et qu'on adule parce qu'on ne sait rien de lui, qu'on est forcé d'imaginer et d'en proposer de fait une interprétation. Poutine, ce personnage mystérieux, indéchiffrable, donc inquiétant, Poutine, ce redoutable héros de roman.
France Inter. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité aujourd'hui est une auteure biélorusse. Elle a son mot à dire sur Vladimir Poutine, puisqu'elle résiste depuis toujours par ses mots à la parole officielle. Depuis plus de 30 ans, elle déconstruit le mythe glorifié de l'Union soviétique et sculpte le visage d'une époque révolue en recueillant les témoignages des anonymes, des oubliés, de ceux qui errent dans l'obscurité de l'histoire. Le 8 octobre dernier, elle a été couronnée par le prix Nobel de littérature. Bonjour Svetlana Alexievitch. Merci beaucoup d'être là. Lors de la conférence de presse qui a suivi l'annonce de votre prix Nobel, vous avez déclaré aimer la Russie, mais pas la Russie de Poutine. C'est quoi la Russie de Poutine ?
Je pense que Poutine et la Russie de Poutine, c'est ce qui nous a tous effrayés dernièrement, puisque ce qui s'est passé, c'est que Poutine est arrivé à remplacer Eltsine, et pendant une quinzaine d'années, nous avions tout de même l'impression que nous nous dirigeions vers une démocratie, vers plus de démocratie. Et puis un jour, on s'est réveillé dans un état totalitaire ou autocratique.
Vous êtes inquiète aujourd'hui ?
Qui ne le serait pas inquiet. Nous, les intellectuels des années 90, aujourd'hui, ils ont peur, ils ont un sentiment d'échec total. Et ce qui nous attend, cela nous fait très peur, parce que ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la renaissance du nationalisme russe, finalement, et ça n'est pas autre chose. Eh bien, oui, ça fait peur. Tous mes amis, aujourd'hui, ils sont en train de lire les livres sur les années 30, sur ce qui s'est passé avant la montée du nazisme, sur les jours qui ont précédé la révolution de 17, et oui, ils ont peur.
Vous êtes née, Svetlana Alexievitch, il y a 67 ans, en Ukraine, d'un père biélorusse et d'une mère ukrainienne. Vous êtes biélorusse et russophone. La Biélorussie, c'est un pays qu'on connaît assez mal, mais qui entretient des liens très forts avec le régime de Vladimir Poutine. Comment a été reçu votre prix Nobel par les autorités russes et par les autorités biélorusses ? Quelles ont été les réactions ?
Effectivement, la Russie de Poutine et l'élite russe ont très mal pris ce succès. Et ils l'ont aussi mal pris que le succès et le prix Nobel de Brodsky, de Bounine, de Pasternak ou de Solzhenitsyn. On me traite de quelqu'un qui poursuit les idées de Bandera parce que je viens d'Ukraine. On me traite de russophobe parce que je critique Poutine. Ça, c'est en Russie, donc. Et quant à la Biélorussie, Loukachenko dit que je fais honte à mon pays, que je déverse des détritus et des immondices par son entier sur son pays. Il ne faut pas oublier que nous vivons dans des pays autoritaires et que la mentalité de nos dirigeants est une mentalité féodale. Ce que je dis là ne concerne pas du tout le peuple, les simples citoyens biélorusses. Dès que je sors dans la rue, dès que je prends les transports en commun en Biélorussie, les gens me prennent dans leurs bras, les gens m'embrassent. Les Biélorusses sont très heureux d'avoir aujourd'hui un symbole et de savoir que leur pays apparaît beaucoup plus clairement sur la carte du monde que précédemment.
Vous incarnez une figure de la dissidence contre Poutine, mais aussi contre Alexandre Loukachenko, le président biélorusse, réélu récemment pour un cinquième mandat avec avec près de 87% des suffrages. Votre premier roman, La guerre n'a pas un visage de femme, a fait scandale lors de sa parution en URSS en 1985. Vous avez été contrainte, Svetlana Alexievitch, à plusieurs années d'exil hors de Biélorussie. Vous êtes finalement retournée à Minsk il y a 2 ans. Qu'est-ce qui choque? Qu'est-ce qui inquiète, à votre avis, chez Svetlana Alexievitch?
Effectivement, mon premier livre n'a pas été publié pendant les 2 premières années. Quant au Cercueil des Ingues, le livre qui part de l'Afghanistan, j'ai eu droit à un procès, en bonne et due forme, j'ai été jugée. Pourquoi? Parce que j'ai détruit les mythes. Le mythe de l'héroïque soldat soviétique, le mythe du magnifique peuple soviétique qui œuvre au bien-être de l'humanité tout entière, et tous ces mythes qui sont fondateurs pour l'État soviétique et l'État russe.
Est-ce que vous pensez que votre voix, grâce à ce prix Nobel, elle va être plus forte, elle va être plus entendue?
En tout cas, ce qui est certain, c'est que lors de la première conférence de presse après l'annonce du prix Nobel, lorsque j'ai dit que ce qui s'était passé en Ukraine, c'était une agression étrangère, que sans Poutine, il n'y aurait pas eu de guerre civile en Ukraine, eh bien, mon opposant dans cette discussion a été le secrétaire de presse de Poutine, M. Peskov. Donc, effectivement, on m'écoute, on entend mieux ma voix, elle est plus forte aujourd'hui grâce à ce prix Nobel. Et donc, depuis que j'ai eu ce prix Nobel, j'ai signé plusieurs lettres pour soutenir différents opposants, différents dissidents, le frère de Navalny, Nadezhda Savchenko, cette pilote ukrainienne, il me semble, qui est détenue en Russie. Mais quand je signe ces lettres, je ressens toujours un grand désespoir et une grande impuissance. Parce que face à un dictateur, nous sommes impuissants. Donc finalement, lorsque je signe ces lettres, je me dis que c'est une façon de soutenir ces personnes qui vivent une situation difficile, et c'est une façon aussi de se compter et de se dire nous ne sommes pas si peu nombreux que ça.
Et en même temps, dans une interview que vous avez donnée en France il y a 2 ans, vous disiez que la société russe et biélorusse est encore très marquée par la civilisation soviétique et qu'elle n'est pas prête pour la démocratie. Qu'est-ce qu'il faut pour que les mentalités changent? Est-ce que les livres, c'est suffisant?
Книгам надо быть, литературе и вообще искусству надо было быть поскромнее.
Je pense que les auteurs de livres, les artistes, il faut qu'ils soient un peu plus modestes. Ils ne peuvent pas être aussi influents que ce qu'ils voudraient. Surtout aujourd'hui où les valeurs matérielles prennent une importance très élevée. Une nouvelle voiture, un voyage, des vacances en Égypte ou un visa Schengen, ça pèse plus lourd aujourd'hui qu'un livre. Mais il faut parler, il faut s'exprimer, il faut se préparer à un travail de longue haleine. Un homme libre, c'est un homme qui met du temps aussi à se construire. Dans les années 90, nous étions peut-être trop naïfs et trop romantiques. Chalamov disait que l'expérience du camp pervertit autant le geôlier que le prisonnier. Donc aujourd'hui, il faut se préparer à un travail de longue haleine pour reconstruire cet homme libre.
Personne ne nous a enseigné la liberté. On nous a simplement appris à mourir pour elle. C'est ce que vous écriviez dans la préface de votre dernier livre, La fin de l'homme rouge, prix Médicis, je le rappelle, en 2013. C'est quoi la liberté pour vous, Svetlana Alexievitch? Qu'est-ce que ça veut dire?
La liberté, alors finalement, il ne faut pas réinventer la roue. Il existe de la liberté, il existe des exemples de liberté, il y en a quelques-uns. Aujourd'hui, il y a une certaine forme de liberté en Europe, aux États-Unis, il y en a une certaine dans les pays scandinaves, et rien de mieux pour l'instant n'a été inventé. Cette liberté, elle a ses points positifs, elle a ses points négatifs, mais je ne pense pas qu'une autre voie soit possible pour le moment. De toute façon, c'est mieux que ce qu'on pourrait appeler, ou ce qu'on appelle, ou ce que certains appellent le monde russe. Je ne m'imagine pas un Français dire aujourd'hui nous allons construire la grande France. Pour moi, un homme libre ne peut pas, il ne peut pas lui venir l'idée de prononcer ou de tenir ce genre de discours.
Alors on va en reparler, Svetlana Alexievitch, de votre œuvre tout entière récompensée il y a 3 semaines par le Nobel de littérature, juste après l'actualité culturelle de ce mercredi 4 novembre. Quelle est-elle ?
Alors, le prix Goncourt 2015 a été décerné au premier tour de scrutin par 6 voix au roman de Mathias Hénard Boussole, édition Actes Sud.
Béatitude chez Actes Sud après votre Nobel de littérature Svetlana Alexievitch. C'est un autre de leurs auteurs, Mathias Hénard, qui vient de décrocher le Goncourt, donc avec son roman Boussole, les ponts entre l'Orient et l'Occident explorés à travers les songes hallucinés d'un universitaire insomniaque. Mathias Hénard était notre invité dans Boomerang en ce début d'année, tout comme Delphine de Vigan, l'autre lauréate d'hier qui s'est vu remettre le prix Renaudot pour le livre D'après une histoire vraie publié chez Lattès. 3 prix remis depuis lundi, tous sont passés ici, et oui. Pour se lever du bon pied, on fait confiance à Coldplay, le groupe anglais qui vient d'annoncer un nouvel album pour le mois prochain, figure en tête des meilleures musiques pour se réveiller avec leur tube Viva la Vida. La playlist élaborée par un chercheur de l'université de Cambridge contient 19 autres morceaux qui réunissent tous les mêmes conditions, une montée progressive, des paroles positives et un tempo compris entre 100 et 130 BPM. Ouais. Avec des critères aussi larges, il aurait pu trouver plus original. Hein.
J'en ai eu. Bonjour, ça vous fera 2,40. Fermez cette caisse, tapez d'abord ici, puis là. En vous remerciant.
Longtemps qu'elle était annoncée, la première librairie d'Amazon a ouvert ses portes hier à Seattle avec cette vraie boutique de seulement 500 mètres carrés. La firme américaine joue la carte du commerce de proximité. Nécessité de revenir aux échanges physiques ou stratégie machiavélique pour anéantir les libraires du quartier. Comment elle s'appelait cette fable d'Ésope déjà? Ah oui, le loup déguisé en agneau. Mercredi, c'est cinéma, oui mais pour voir quoi? Tandis qu'Aladin vient de dépasser les 3,5 millions d'entrées, on préférera se passionner pour Le Fils de Saul de Laszlo Nemes, notre invité de jeudi dernier, sur la quête bouleversante d'un déporté juif hongrois déterminé à offrir une sépulture à un enfant. Ou traverser des frontières avec Nous trois ou rien de Kairon, depuis le sud de l'Iran jusqu'aux immeubles de la banlieue parisienne. Enfin, on jubilera devant Avril et le monde truqué, le spectaculaire film d'animation de Christian Desmarres et Frank Ekinci, inspiré par l'univers graphique d'un géant de la BD, Jacques Tardy. Svetlana Alexievitch, prix Nobel de littérature, est mon invitée dans Boomerang pour son œuvre qui, à bien des égards, inquiète et dérange l'espace post-soviétique, comme on peut l'appeler. Il semble que vous avez toujours été animée par cet esprit de contestation, Svetlana. Petite, il paraît que vous posiez déjà des questions, que vous pensiez différemment. Il faut nous raconter.
Moi, je suis née après-guerre. Je suis née de deux parents instituteurs de campagne. Et les campagnes biélorusses après-guerre, c'était un paysage assez triste, en fait. Il y avait des femmes partout, il n'y avait que des femmes. C'était très, très dur et elles avaient une vie très, très dure. Elles travaillaient dans les champs toute la journée. Le soir, elles se réunissaient pour parler de leur vie. Et leurs histoires, c'était un choc pour moi. C'était impossible. Parce que je n'avais jamais rien lu de tel dans les livres que je connaissais. Et ces voix, elles sont restées pour toujours, elles m'ont accompagnée pour toujours, elles sont en refrain, qui m'ont inspirée, qui m'ont donné envie d'écrire et de décrire ce que j'avais entendu à l'époque. Et cet esprit de contestation dont vous parliez, c'est l'esprit de ma génération, finalement. C'est la génération de l'après le 20e congrès du Parti communiste, hein, où Khrushchev a dénoncé les agissements de Staline et le stalinisme. Et donc, nous étions des hommes différents, nous étions des hommes qui voulions la vérité.
Alors, vous avez choisi, c'est là où c'est intéressant, la voie de la littérature. Mais vous avez une formation de journaliste. Votre travail d'écrivain emprunte d'ailleurs aux méthodes journalistiques, notamment à travers les longues enquêtes que vous menez avant de pouvoir écrire un livre. En quoi est-ce que votre travail d'écrivain se distingue-t-il de celui de journaliste?
Я могу сказать, что я как журналист собираю материал.
Ce que je peux dire, c'est que, effectivement, lorsque je récolte des informations, lorsque je prépare un livre, je travaille comme une journaliste. Je recherche mes témoins, je leur parle, je mène les entretiens, ensuite j'enregistre ces entretiens. Mais ce qui me différencie d'un journaliste, c'est que lorsque je prépare un livre, je prends vraiment mon temps. Je travaille parfois 7 ans, parfois 10 ou 11 ans pour écrire un livre. Ça n'est pas un luxe qu'un journaliste peut se permettre. Donc cela me permet d'explorer beaucoup plus en profondeur les sujets que j'aborde.
Vous écrivez d'ailleurs « Je n'écris pas l'histoire des faits, mais celle des âmes ». Quel mystère de l'âme humaine est-ce que vous essayez de percer? Qu'est-ce que vous essayez de comprendre?
Ce que je veux dire tout d'abord, c'est que pendant 30 ans, j'ai écrit l'histoire des petits, l'histoire de cette utopie rouge, une sorte d'encyclopédie de cette utopie rouge qui a duré pendant 70 ans, de son apparition et aussi de sa chute. Mais cette histoire, je l'écris à travers de l'homme. Finalement, l'histoire que j'écris, c'est une histoire perdue, l'histoire manquée, les parties de cette histoire que nous avons manquées. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe à l'échelle d'une âme humaine, à l'intérieur de l'espace de cette âme. Je ne veux pas parler de grands événements, d'un point de vue très grandiloquent, des grands congrès ou des choses comme ça. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'homme et la façon dont parfois il succombe à la tentation.
Les hommes, les femmes, les voix, les âmes, vous connaissez forcément l'hymne des Beatles immortalisé en 1969 par Joe Cocker au festival de Woodstock. With a little help from my friends, vous êtes sur France Inter avec Svetlana Alexievitch. Vous écoutez Boomerang.
Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you do? Tell no insane no more.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est une petite dame qui paye pas de mine, le visage rond, des grands yeux bleus, elle a un casque de cheveux châtain. Elle est désarmante de simplicité, elle est bienveillante, mais si vous l'observez, assise comme elle est, droite et calme, vous verriez aussi qu'elle dérange, qu'elle dégage une forme d'autorité. Elle a un grand pull en laine vert, elle a un pantalon noir, des bottillons rouges. L'écrivain biélorusse Svetlana Alexievitch, qui a reçu il y a 3 semaines le prix Nobel de littérature, est mon invité dans Boomerang. Sculpter l'image d'une époque, c'est ce que vous dites faire, Svetlana. C'est ce projet qui traverse votre œuvre depuis votre premier roman, La guerre n'a pas un visage de femme, jusqu'au dernier, La fin de l'homme rouge, en passant par Supplication sur la catastrophe de Tchernobyl. Le fil rouge, si je puis me permettre, c'est la mise en lumière de cette grande utopie soviétique qui est tombée en 3 jours. Plus de 20 ans après la chute de l'URSS, que reste-t-il de l'homme soviétique, de l'homo soviéticus, comme vous l'appelez, Svetlana Alexievitch?
Вы знаете, эта страна, она распалась на 15 разных стран.
L'État, le grand État, l'Union soviétique, s'est séparé en 15 États plus petits et chacun de ces 15 États a finalement suivi un chemin différent. Mais alors, il faut dire qu'en Biélorussie, Loukachenko a vraiment réussi à arrêter le temps. Nous vivons dans une sorte de socialisme impérialiste, quand en Russie, c'est le capitalisme dans qui règne le plancher, c'est Chicago.
Mais... Partout,
dans ces 15 pays, l'homme rouge est toujours présent.
Et qu'est-ce qui différencie l'homme rouge, l'homo soviéticus, comme vous l'appelez, de l'homme occidental? Quelle est sa particularité?
Finalement, l'homme rouge, c'est l'homme tel qu'il a été créé par l'Union soviétique. Il n'a pas changé. C'est des gens qui vivent dans une sorte de laboratoire où nous sommes fixés pour objectif peut-être de créer une catégorie d'hommes nouvelle et qui est finalement parvenu. Et cet homme rouge, il est toujours là, il refuse de s'en aller, il ne veut pas mourir. Et Poutine, aujourd'hui, ce qu'il fait, c'est qu'il reconstruit à l'identique cet homme soviétique tel qu'il était du temps de l'Union soviétique, parce que finalement, il a décidé qu'il n'y avait pas d'autre voie possible.
À vous lire, Svetlana Alexievitch, j'ai l'impression que s'il le distingue aussi, ce sont ses silences. Les silences sur ce qui s'est réellement passé, les crimes de guerre, les déportés. Et j'ai l'impression que votre littérature, elle consiste aussi à briser ce silence, à faire parler précisément.
J'ai toujours dit
que,
à titre individuel, à titre personnel, j'admire. Ou bien je plains énormément ce pauvre et magnifique petit homme rouge. Mais c'est un homme qui se caractérise par énormément de contradictions. À la fois, c'est lui qui a vaincu Hitler en 1945, et à la fois, en 1937, c'est lui qui a écrit des dénonciations par milliers pour dénoncer ses propres voisins. Et aujourd'hui, il continue à dénoncer, il continue à servir Poutine, et c'est toute la tristesse de cette situation. Je voudrais compléter en disant que, finalement, pour cet homme rouge, la vie n'a pas de valeur. La vie d'une personne n'a pas de valeur. Tout d'abord, toute cette vie était consacrée à maîtriser, à découvrir cet énorme espace, cet énorme territoire qu'est la Russie. Puis, il a été jeté en pâture à des grandes idées, telles que la révolution mondiale hier, telles que l'idée de reconstruire le monde russe aujourd'hui. Finalement, la vie de cet homme rouge, elle est toujours jetée au pied d'une idée.
Mais interroger, réunir toutes ces voix comme vous le faites dans chacun de vos livres, c'est un moyen de lutter contre l'oubli, c'est un moyen de combler les silences, Svetlana Alexievitch.
J'espère que les gens lisent encore des livres. Et mon objectif, ce n'est pas de vous assommer par toutes les horreurs qui sont parfois déballées, mais c'est vraiment d'extraire du sens de cette horreur et de permettre à l'homme de rester homme, de rester humain. Et vraiment, ma devise et mon message, c'est garde et sauvegarde l'homme à l'intérieur de toi.
Nous sommes en train de faire nos adieux à l'époque soviétique, à cette vie qui a été la nôtre. Je m'efforce d'écouter honnêtement tous ceux qui ont participé au drame socialiste. Svetlana Alexievitch.
Après sa deuxième arrestation, maman a disparu. Ça signifiait la peine capitale, le peloton d'exécution.
Je suis née en Sibérie. J'ai travaillé à l'usine comme opératrice de grue. La vie était belle, je pouvais aller où je voulais, on me payait des vacances. L'histoire, nous ne l'oublierons pas, l'histoire, nous ne l'effacerons pas. Nous serons toujours avec Lénine et nous ramènerons Staline.
J'ai passé ma vie entière à rechercher les traces de mon père. Il avait 19 ans lorsqu'il a été happé par la machine d'extermination du KGB. Jusque dans les années 90, j'ignorais ce qui lui était arrivé.
Moi, je pense que ce serait bien si on revenait un peu à ce qu'on avait en Union soviétique.
À l'école, les autres enfants me traitaient d'ennemis du peuple.
Honnêtement, je préférais l'Union soviétique. On avait les jeunesses d'octobre, on avait les pionniers, les jeunesses communistes. On était bien éduqués. On savait qu'on avait une sorte de dette envers la patrie, qu'on devait faire quelque chose pour notre patrie.
«
Des voix, des témoignages, des survivants d'un monde disparu. Qui sont-ils, ces hommes et ces femmes que vous interrogez, Svetlana Alexievitch?
Je parle des gens qui vivent aujourd'hui, des gens qui ont vécu hier. Je parle à des personnes qui sont cet homme soviétique, ce peuple soviétique. C'est des personnes qui ont vécu, et quelquefois aussi, qui ont vécu le temps soviétique, donc, et quelquefois, c'est des personnes qui naissent aujourd'hui, mais qui sont finalement aussi soviétiques que leurs parents. Ce sont mes contemporains, mes voisins dans le temps, si vous voulez. Ce que j'essaie de faire, c'est vraiment de dessiner le portrait de ce temps, de cette époque.
Et comment vous les faites parler? Quelles sont les questions que vous leur posez? Quelle est votre méthode pour qu'ils se livrent comme ils le font?
Je travaille tout à fait normalement. Je viens voir une personne en tant qu'une autre personne, son voisin. Finalement, nous essayons de parler ensemble, de parler sans animosité, de parler amicalement. J'essaie de poser à la personne les questions qui l'intéressent et nous essayons ensemble de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons et quelle est notre époque et quel est le temps où nous vivons.
La parole se libère facilement? Ou alors ça prend du temps?
Ça dépend, c'est très différent. Ce qu'il faut souvent, c'est d'arracher la personne à la banalité de son quotidien. Cette banalité, elle recouvre souvent tout, et bien il faut s'en débarrasser.
Et les voix que vous entendez, les voix que vous recueillez, elles vous hantent?
Non.
Si elle me poursuivait partout et tout le temps, mais je me rappelle de beaucoup de choses.
Travailler à partir de témoignages oraux, ça pose aussi des questions d'ordre poétique, hein, d'ordre littéraire. Comment transformer cette matière brute et orale en matière proprement littéraire? Comment s'opère en fait le passage de l'oral à l'écrit, Svetlana Alexievitch?
C'est probablement le plus difficile dans mon travail, parce que la parole, le langage oral, ça n'est pas encore le texte abouti du livre, mais en même temps, je dois respecter le document, je n'ai pas le droit de trahir l'original, donc c'est vraiment un travail de précision, un travail de joaillier, si vous voulez.
Alors, où commence la littérature? Dans l'interview, dans la retranscription, dans le montage des voix que vous opérez?
C'est un ensemble de choses, c'est un tout, en fait. D'abord, bien sûr, je recueille des matériaux pour mon travail, et ensuite, il faut une idée qui ne serait pas banale, et autour de laquelle on pourrait, une sorte de vision du monde, en fait, autour de laquelle on pourrait fédérer tout ça, parce que sinon, ça ne serait que du journalisme.
Qui est l'auteur de vos livres, Svetlana Alexievitch? Vous posez la question, parfois. Pour vous, ce sont des livres collectifs?
Difficile de répondre à cette question. Imaginez-vous un bâtisseur d'une église. Il ne peut pas dire « c'est moi qui ai bâti cette église », même si les plans, les murs, ça a germé dans son esprit à lui. Moi, je me vois comme un conducteur. Je suis le conducteur de quelque chose qui devait rester. Il était impossible que ces personnes s'en aillent dans le passé sans laisser des traces. Alors mon œuvre m'appartient autant qu'elle leur appartient.
Merci, Svetlana Alexievitch. Et merci à votre interprète aussi, Alice Akkad. Je rappelle que votre dernier livre, La fin de l'homme rouge, ainsi que trois de vos œuvres, La guerre n'est pas un visage de femme, Dernier témoin et La supplication, sont tous publiés aux éditions Actes Sud. C'est un honneur de vous recevoir dans Boomerang. C'est toujours un honneur de recevoir un prix Nobel de littérature. C'est l'heure des médias, avec Sonia De Villers, qui est, me dit-on, d'excellente humeur, qui nous attend sagement dans le studio d'à côté, avec son invité, l'instant M, l'instant média de France Inter, juste après ça.
On discutait dans les cuisines, la radio grésillait, pleine des voix d'ailleurs qu'on captait, sirènes clandestines. À l'aube, certains sans rien dire passaient dans la chambre à côté, et on les entendait gémir en regardant les trams passer. On n'irait pas au paradis, juste jusqu'au bout de la nuit, le temps d'entrouvrir notre vie sur une autre vie, sur une autre vie. Dans la rue, le jour s'ignorait, pas même un signe de la tête. Se retrouver le soir tombé et fermer les fenêtres, pour enfin parler comme on rêve. Alcool et café pour tenir, avec la radio qui soupire comme un chant d'ailleurs s'élève. On n'irait pas au paradis, juste jusqu'au bout de la nuit, le temps d'entrouvrir notre vie sur une autre vie, sur une autre vie.
Dominika, Une autre vie, qui est une chanson inspirée par le dernier livre de Svetlana Alexievitch, La fin de l'homme rouge, justement, ultime clin d'œil au Nobel de littérature, notre invité dans Boomerang. À présent, c'est l'heure de l'instant M, l'instant média.